Anna de Noailles, ce que j'appellerais le ciel. La petite ville d'Évian, en Savoie, au bord du lac Léman, est pour moi le lieu de tous les souvenirs. C'est là que j'ai, dans mon enfance, tout possédé et, dans l'adolescence, tout espéré. Si le parfum le plus prompt véhicule que l'âme puisse emprunter au monde pour rejoindre le passé, l'infini, les cieux, je suis ici dans ce royaume de la mémoire. Je reconnais les vives odeurs du lac, légères et mouvementées, où l'on discerne un parfum de marine et d'ablette, de goudron éventé, de barques peintes et clapotantes qui font rêver des grands ports et des voyages. À cette jubilante émanation du rivage, il faut joindre l'arôme matinal de la rosée des nuits, partout encore en suspens et que l'azur s'assimile. Des effluves d'arbres et de pollen qui contaminent suavement l'intacte pureté de l'air et de fines senteurs animales, plumages volants et pépillants, roitelets, chardonnerets, merles charmants et maladroits, fardeaux de la délicate pelouse. Le lac en été est un satin tendu, plus soyeux que les terres, moins que lui cristallin. Le silence dans cette atmosphère de turquoise crémeuse formerait un bloc de compact azur s'il n'était disjoint de moment en moment par le bourdonnement saccadé des bateaux à vapeur qui semblent transporter d'une rive à l'autre l'impatience aventureuse et l'exhaussement des désirs. Là, j'ai vraiment connu la joie, visiteuse forcenée, archange tumultueux qui pénétrait en moi avec toutes ses ailes pour m'entraîner, trébuchante de radieux vertiges, vers les régions illimitées de l'espérance. Continuité des choses, jeunesse des éléments, vous que j'ai contemplés avec les yeux éblouis de l'enfance, plus brillant que le vertuya grêlé de soleil, vous étincelez toujours et moi je passe, bientôt j'aurai passé. Quand mon esprit est sans cesse transformé par les arabesques des événements, semblables à la course des nuages, je retrouve toujours pareil, active, satisfaite, honnête, la petite ville rêveuse de mon enfance. Je suis au milieu de ma vie qu'encore le couvent des Clarisses, bien qu'abandonné à présent, garde dans un matin de mai sa juvénile beauté. Mêlant mes souvenirs à la pure matinée, je vais essayer de dépeindre sa joie rustique, sa blancheur de tupéreuse, ses lignes bien tendues qui, contenant l'azur, le silence, la musique, de frémissantes prières et le sol vivace d'un jardin ordonné, me dispensaient tour à tour le calme captivant et l'allégresse dionysiaque. De bonne heure, le dimanche matin, sous le soleil de juillet et d'août, nous nous hâtions vers la chapelle du couvent. La route à parcourir était assez longue, moelleuse de poussière blonde, bordée d'un côté par les ronciers et les mûriers, où les volubilis, si fragiles, naissaient, disparaissaient, comme un regard et un soupir de fleurs. De l'autre côté de la route, les collines s'appuyaient amicalement à l'espace, s'incurvaient pour laisser courir la ligne argentée où s'élançaient les trains, et précipitaient dans la plaine de petites sources torrentielles qui s'abattaient en bouillonnant, en chuchotant, comme pour porter aux prairies, parmi les verts osiers, je ne sais quelle heureuse nouvelle des sommets. J'ai, pendant mon enfance et mon adolescence, parcouru cette route avec un plaisir si fort qu'il me semble avoir failli mourir de la joie de vivre. Cette joie m'était lancée de tous les points de l'étendue et me frappant comme de mille balles argentines me faisait réellement chanceler de nostalgie céleste et d'ineffable convoitise. À mesure que nous approchions du couvent, la cloche, au son distinct, répandant à travers les clématites qui tapissaient les murailles du monastère, son bruit vibrant, alerte, peiné aussi, comme émané d'un cœur fendu, trop sensible mais brave, et qui distrait sa détresse, la rejette à mesure et bannit de soi toute langueur. Nous arrivions en face du couvent, la villa des quatre saisons disparaissait sous la vigne vierge et les pétunias. J'éprouvais là, en regardant cette maison dans laquelle je n'étais jamais entré, la prédilection de l'enfance pour ce qui ne lui appartient pas. Et mon imagination situait en cette romanesque demeure des plaisirs semblables et un contentement sans défaut. Mais on m'arrachèrent cette médication pour me guider vers le religieux enclos. Il suffisait de pousser une porte de bois plein à ressort, dont je sens encore sous ma main la résistance et la pression contrariée, pour pénétrer dans cet asile souriant qui, chaque fois, installait brusquement dans mes yeux une image d'humble paradis parfaitement radieux. Dirais-je qu'en me rendant à 14 ans, les dimanches de juillet, dans un poudroiement de soleil et de poussière, chez les religieuses Clarisses, j'étais une enfant dévote que le service de Dieu uniquement attirait? Non point. Certes, le dimanche matin me semblait marqué pour la joie et pour une joie religieuse, mais j'étendais à tous les sentiments cette gravité et cette liesse. Jeunesse, ambition, amour, munificence, paysages infinis, je vous ai possédés au son d'une cloche de couvent dont les vibrations glauques et liquides chantaient tous les départs, toutes les constances, et sanctifiaient la sublime générosité du désir. Si jamais j'ai été fier d'un beau visage enfantin, triomphant d'un gai chapeau, occupé de l'ombre régulière que mes cheveux devaient former sur mon front, enfin, si jamais j'ai ressenti la gratitude de posséder cette part individuelle du ciel, quelle adolescente beauté, c'est bien le dimanche matin, en me rendant chez les Clarisses. Aussi, je n'oublierai pas le jour où, distraite, émerveillée, prêtant l'oreille aux cymbales d'argent d'un exultant azur, et bien contente de moi, je trébuchais dans mes souliers d'antilope blanc sur la pente rapide et caillouteuse d'où l'on s'engageait sitôt la porte du couvent ouverte et qui en quelques pas menait à la chapelle. Sur cette abrupte vallée, je tombais donc. Jamais, en aucune occasion où j'étais en défaut, on eût pu me faire croire que le monde entier ne me voyait pas. Mon cœur, bondissant et ne connaissant pas de limite, communiquait avec l'univers et je croyais à la réversibilité de ce prodigieux mirage. Ce matin-là, les fidèles, vêtus avec recherche, arrivaient en rang pressé, et ma faiblesse était évidente. Leur regard s'en assurait. Je pouvais à peine me relever. Le pied endolori, je marchais avec difficulté vers l'église. L'orgueil, si nécessaire à l'amour et au plaisir, et qui, dès l'enfance, mène au fond des êtres sa tragédie éternelle, m'avait abandonné. Dans la chapelle gorgée pour moi de promesses, je me sentis frustré de cette fierté paisible, audacieuse, avec laquelle, à l'ordinaire, et tandis que se déroulait la messe, je rêvais à toutes les suavités, à toutes les possessions de la terre. Indicible rêverie brûlante, qui, comme autant d'équateurs traversant en tous sens le globe, me transperciez de mille flèches torrides. Vous par qui j'ai régné sur le monde en suffoquant d'extase solitaire, par qui j'ai été comme un jeune tyran qui veut gouverner les peuples pour les combler de bienfaits et pleurer ensuite aux pieds de ses propres esclaves du regret de n'avoir pu leur donner plus encore. Ô rêverie! C'est à vous que je dois de m'être destiné au langage de la poésie, lorsque je compris, dès mes plus jeunes années, que les éléments, l'espace, la contemplation, les sanglots explosifs et muets de l'âme ne sont pas l'échange intelligible dévolu au vivant. L'église au mur d'un blanc bleuâtre retenait dans son frais abri cette paix absolue, cette majesté simple déférée au lieu consacré, qui ne sont saturées que d'un seul parfum, d'une seule et obstinée et rayonnante pensée. Qu'il m'était doux de pénétrer dans cette atmosphère éthérée, de porter le joug léger et ennoblissant de la subtile présence divine, de me sentir contrainte soudain en tous mes gestes, en tous mes éclats de voix, et appelé à comparaître ainsi modifié devant le roi des rois, qui me reconnaissait, me commandait des devoirs difficiles et nouveaux transmis par mon livre de prières, et ne me jugeait pas indigne de les accomplir. L'église est aujourd'hui fermée, mais je n'ai rien oublié de l'ameublement naïf et ingénieux de ce vaisseau des rêves. Avant la messe, tandis que nous prenions place dans les bancs à qui le frais encaustique communiquait une odeur de miel et d'abricots séchés, les religieuses erraient à pas de chevreuil dans leurs neigeuses églises. Leurs vêtements de bure, comme leur silencieuse démarche, les apparentaient à ces timides animaux des forêts. Elles disposaient les chaises, les lourds chandeliers, les pots de fleurs et les bréviaires dans un ordre rituel et mystérieux, avec une adresse étouffée, immanquable et tendre, mais elles paraissaient néanmoins hésitantes et comme saisies de la crainte de troubler un sommeil auguste et de faire, par un geste trop accusé, s'écrouler sur elles le poids mystique de l'édifice qu'elles aménageaient en tremblant. Il est des fleurs qui ne croissent que pour les couvents. Fleurs prédestinées qui ont la vocation de l'autel et renoncent aux abeilles pour écouter le léger bourdonnement que fait la voix de l'enfant de cœur. Je n'ai vu ni dans les campagnes ni dans les jardins, observées par moi avec tant d'amour, mais seulement chez les religieuses clarisses, ces hautes quenouilles de pétales bleus, cierges d'azur vivant, qui s'élançaient au pied des statues de Sainte Colette, de Sainte Claire. Oh, que ces statues innocentes, violentes, m'étaient chères! Excès des visages religieux, ascension de l'âme, transport des regards, combien déjà vous me plaisiez! Si, comme dit Goethe, le meilleur de l'homme est l'émotion, le tremblement. Avec quel respect ne devons-nous point considérer ces créatures frappées de la foudre, saisies et maintenues dans un état de commotion sacrée, et que revêt le développement dramatique des plus passionnées facultés de l'être? Ainsi, autour d'une humble église de cette petite ville, située au bord d'un rivage, la vie humaine se déroule. C'est, selon les saisons, l'odeur des foins, des vendanges, du boissier, du laitage, du fumier même. Les pauvres travaux assidus des paysans, ou bien les amusements frivoles des voyageurs qui assaillent pendant les mois étincelants une petite cité aux belles fontaines, recouvrent de leur tristesse ou de leur joie légère les rues gracieuses et les campagnes. Mais qu'on approche de l'église, qu'on pousse la porte, et voici qu'éclate, permanente et dans le silence, la tragédie de l'amour indompté. Un autel, un crucifix, du sang, des larmes, un dieu qui meurt, des visages peints, frappés de la foudre, des yeux élancés, des cœurs qui se rompent sous des mains qui les compriment, c'est une immense fuite de la vie, arrêtée et fixée, dans le moment de son sublime départ. Nul n'a un plus grand amour, dit l'Écriture, que de donner sa vie pour son ami. Ici, l'on aimait et l'on mourait. Cet attrait palpitant de l'adolescence pour la douleur, sommet où le plaisir a son achèvement et se fait porter par l'indicible ivresse au-dessus du trépas, qui plus que moi l'aura jamais connu? Donc, petite fille, pendant le service divin, je regardais longuement, à travers les fusées de fleurs bleues, les statues de Sainte Colette et de Sainte Claire. Je me tourmentais du désir de savoir laquelle de ces deux saintes, en leur sombre peinture marron, le pur visage rose levé vers la nef, le cœur visible et transverbéré, laquelle des deux était la première, la plus estimée, la plus méritante, la plus aimée de Dieu. Je voulais le savoir pour plaindre l'autre, pour compatir à l'infortune de son rôle secondaire, pour la dédommager par ma tendresse et ma confiance dans cette situation diminuée que je jugeais, dans ma fierté, difficilement acceptable. Un oratoire était consacré à saint François de Sales, mais cette statue-là était d'un paisible aspect. L'archevêque de Genève ne me plaisait pas. Son visage à barbe carrée, son regard d'humble sec, son surplis de broderie, tel enfin que le représentait l'imagier, ne retenait pas mon cœur. Cette fois-ci, le peintre nous séparait. À la fin de la messe, au moment où peut-être ma turbulence contenue d'enfant eût pu commencer à se lasser du divin climat de l'église, éclatait le chant charmant et psalmodié des religieuses agenouillées dans un banc à nos côtés, auquel répondait, de derrière un noir grillage lustré qui faisait le fond de la chapelle, les religieuses invisibles, vierges cloîtrées que nul ne peut approcher, et dont le mélodieux murmure m'emplissait d'une surprise, d'une révélation sacrée. Ils ne connaîtront point ces témoins, ceux qui, sollicités comme je l'étais par les phares aux mille feux de la vie avant venante, n'entendront pas soudain, pendant quelques instants, le souffle mystérieux des recluses. Remous de voix enfermées, flots retirés de l'océan et de tous les rivages, et qui consentaient à rester arrêtés dans l'extase au fond de la vasque perdue qu'est un petit cloître de province pour refléter uniquement le ciel. Chère voix sans orgueil, sans volonté, sans projet, symbole du détachement humain, soyez bénie pour m'avoir prouvé l'amour absolu et son abandon reposé. C'est avec hâte et un matinal appétit de bavardage dont nous venions d'être privés que nous quittions la chapelle pour nous retrouver dans le jardin du petit monastère. Le soleil y tombait avec une passion directe et comme les pigeons s'abattent sur les écuelles de maïs. L'éther pétillait d'allégresse et distribuait un contentement immédiat qui semblait devoir être éternel. Les guêpes et les abeilles, fileuses de l'air et du soleil, élançaient le courant chaud de leur vol faiblement bourdonnant. Tout était bonheur, envolement, confiance, plénitude. Nous restions là, un peu intimidés par cette demeure secrète de bois clair et verni, où les corps se faisaient furtifs, impondérables. Bientôt, les humbles sœurs, quittant à leur tour la chapelle, nous rejoignaient. Mais quelle grâce sur le plus rude, sur le plus ingrat visage! De même qu'ils ont des fleurs uniques, les couvents possèdent les regards incomparables, non point beaux et séduisants, mais pareils à la musique, à la charité, à l'humilité, à l'espérance, et qui brûlent de plaisir. Petits yeux pointus et champêtres d'une religieuse au visage plus mal établi que ne serait une chaise ou une table inutilisable, bien petits yeux qui rayonniez au-dessus d'un large sourire campagnard aux dents abîmées, Vous étiez plus accueillants et plus rassurants par vos baies étroites, où s'entassait comme une récolte serrée la puissance miraculeuse des cœurs dévoués, que les splendides maisons des villes, à l'heure nocturne où toutes leurs fenêtres répandent une clarté qui défie le jour. Bonnes religieuses, heureuses à force de vertu, et qui, bien qu'épaisse et sans grâce, étincelier dans votre couvent autant que la pâquerette ravie sur sa touffe d'herbe matinale, vous ne connaissiez qu'un moment bien pénible. C'est quand vous nous tendions, en prenant congé de vous, une poignée de mains d'enfants respectueux. Votre embarras épouvanté, qui nous troublait fort, avait des raisons profondes. Vous étant donnés à Dieu un jour et pour toujours, et dans un ouragan d'anéantissement, vous ne saviez plus au juste ce dont vous pouviez disposer encore. Et certes, vos mains, vos robustes et timides mains dissimulées dans vos larges manches, en sombre lainage franciscain, vous semblez réservées à seul maître et ne pas devoir être un lien de complicité avec le monde. Et puis, chères et saintes filles, nous étions à vos yeux des enfants de riches et, je vous en demande pardon, vous nous considériez avec déférence. Votre spontanée et ferme humilité se réjouissait de tous les obstacles, de toutes les distances. Vous contempliez ces distances avec béatitude. Vous choisissiez de vous maintenir à la dernière place. Ô vous, à qui je n'apportais rien, qui vous fût profitable, et qui en échange m'avait donné un long rayon de poésie. Tandis que nous causions avec l'une des religieuses, le jardin du cloître s'animait. Un vieillard mendiant arrivait sur ses béquilles, sans fausse honte, se sachant attendu et apprécié chez les sœurs. Il s'asseyait sur un banc de bois parmi les fleurs, dans une portion de monastère bocager où se fut complu l'ange de l'Annonciation, et qu'embaumait la molle odeur vanillée des pétunias. Il prenait des mains d'une des religieuses le bol de soupe quotidien. Un autre mendiant venait faire panser une plaie, et si pure était la joviale netteté de ces lieux que la corruption de la chair n'en altérait pas la juvénile et salubre candeur. Un vieil ami de notre famille, dont la véhémente nature enchanta notre enfance, c'était fait notre guide religieux, tenace et emporté. Il avait vécu dans l'impénitence jusqu'à l'approche de la vieillesse, et puis s'était jeté dans une dévotion violente, raisonneuse, pittoresque, inique, imperturbable. Nul n'aimait la musique plus que ce vieil ami. Il vénérait Mozart à l'égard de saint Thomas, et eût renoncé peut-être à ses chances de paradis qu'il organisait avec âpreté, s'il eût pensé que Dieu n'était pas harmonie au moins autant que charité. C'est ainsi qu'il contraignit un jour les Clarisses à établir dans leur monastère le plein chant de Guy d'Arezzo. Ce nom nous émerveillait. Messager d'Italie, que du haut du ciel saint François envoyait aux filles de Sainte-Claire. Rien n'était plus touchant que de voir ces douces femmes empressées autour de notre ami, l'écoutant, le craignant, renonçant avec peine à leur modeste cantique romanesque, accompagnées par le souffle court de leur petit orgue, mais fières d'être instruites et gourmandées par un monsieur des villes, et se résignant à entonner cette musique unie qui privait leur cœur innocent de sa secrète sensualité. La plus vieille de ces femmes était si transparente que je ne puis la comparer qu'aux pétales macérés que j'ai vus dans de l'eau des fleurs de lys. La plus jeune, au contraire, avait la teinte excessive de la route calcéolaire. Sa timidité lui faisait à jamais un masque écarlate. Dans le paradis même, elle eut choisi d'être la servante de Marthe, qui fut la servante de Marie. Je me risquais un jour à demander à la moins affinée, à la plus sociable d'entre elles, comment elle supportait les monotones travaux de sa vie. Eh bien, me répondit-elle avec un grand sourire modeste, on pense au ciel. Donc, ces humbles femmes, groupées sur un radieux visage, rivage dont elles ne recevaient que la bleuâtre buée et la rumeur amortie, pensaient au ciel. Et hier, en visitant leur couvent désormais abandonné, je me suis répété ces mots. Là, des cœurs appliqués, simples, éblouis, pensaient au ciel. Ni les astronomes, dont le regard déchiffre l'arithmétique étourdissante des nuits, et dont l'âme écoute ce chant des sphères dont parle Pythagore, ni les poètes, qui, dans leur solitude anxieuse ou sereine, ont fait de l'étendue leur compagne secrète, n'ont connu un tel exclusif amour du ciel. Je suis resté à rêver dans ce désordre des fleurs et des bâtiments. L'aimable allée brusque et caillouteuse que le mendiant infirme parcourait dignement, l'allée où, jeune fille, je suis tombé avec une confusion que l'amour-propre rendit extrême, est envahie à présent par les branches des aubépines, des cytis, des lilas, des épais magnolias au feuillage vernissé, qui n'ont plus leur faste ciselée, mais, faute de soins, retournent à la barbarie. Les fleurs pourpres des marronniers jonchent le sol, parure inutile, grains de grenade moelleux qui pourrissent la terre. Le petit cloître qui borde le jardin est fermé. Des enfants pauvres, aux pas encore mal assurés, essaient tout seuls, avec la mort de gravité si poignante des petits indigents, leur premier jeu dans ce silence qui regrette et pleure des âmes. Les cloîtres fermés sont des tombeaux sans mort, autour de qui voltigent de légers reproches, semblables au vol désemparé et au long cri d'adieu des hirondelles. Je pense à vous, innocente congrégation rêveuse, pour qui le mot « ciel » avait une signification précise, impossible pour nous, mais toujours désiré. Je m'approche de la chapelle. Mon cœur se serre. L'escalier de granit, la porte close, sont encombrés de vils objets. Parmi ce désordre, je vois les débris d'un berceau d'osier, petit lit de paysan qui se dénate, usé par le soleil et les pluies. Les splendides glycines, tout imbues d'elles-mêmes, semblent repliées sur leur propre parfum et rêvent à l'écart du monde. Mes mains voudraient déblayer d'abord et puis forcer la porte barrée de la chapelle pour me permettre de goûter une fois encore à l'eau aérienne de ce puits de songe et d'amour. Mais personne n'entre plus dans l'église désaffectée. Je suis séparé ainsi de ma jeunesse, séparé de la jeune fille que j'étais et que j'allais revoir là, sur le prieux de bois et de rouge velours, où, tantôt distraite, tantôt absorbée, elle posséda la seule part de sa destinée qui ne fut point déchirante. Ce n'est que du dehors que je puis contempler les vitraux bleuâtres et violacés, ce mensonge béni qui colorait l'air intérieur de la chapelle de la teinte des golfes, et me plongeait vivante dans le même azur sombre qu'habitent les récifs de corail et les perles orgueilleuses et la méduse rose, fleur écumeuse et spasmodique des mers. Et elles, où sont-elles allées, ces recluses et demi-recluses qui pensaient au ciel? L'idée fixe céleste semblait être piquée sous leur front comme les lucioles dans la prairie du soir. Humbles lampes naturelles, elles prenaient leur place parmi ceux qui brillent et méditent entre les phalènes et les astres. Hormis la candide beauté du monde, que tout est soudain triste ici. Je me retire, je m'assieds sur le coin d'un banc demeuré là. Je rêve à ce que fut la vie. J'ai voulu toute chose ici-bas, et si je songe, je m'aperçois que je n'ai rien voulu qui ne fût le ciel. Et lequel d'entre nous, parmi les humains enflammés d'une digne et douloureuse ambition, a cherché quelque chose d'absolu, de profond, de durable, qui ne soit pas le ciel? Le ciel, oh, non point comme l'entendaient ces simples femmes en prière, ni comme l'entendent les croyants et les prêtres, mais ce ciel qui est le rêve et l'infini, qui a pénétré le désir des hommes, qui les sollicite par l'orgueil, la passion, le courage, la pitié, le besoin d'éternité, le spectacle de la mort. Ce ciel qui ne nous laisse plus de repos en ce qui concerne la possession des trésors de la vie. Je me reporte sans cesse au puissant soupir de Septime Sévère, assis sur une des collines de Rome et regardant mélancoliquement du côté d'Albe la Longue. « J'ai été tout, murmurait-il, et tout n'est rien. » Pourrons-nous nous résigner à ce néant, à cet immense désert? Et quand Bonaparte en Italie, épuisé de gloire et d'inquiétude amoureuse, distrait de ses sublimes victoires par son amour pour son ami, écrivait de Tortone un soir une lettre qui tomba à Milan dans une salle du palais Cervelloni, ou à Paris, rue Chantereine, sur les genoux nonchalants de Joséphine, lettre dont j'ai retenu ces deux mots, haletants, harassés. Mourir ensemble. Le vainqueur du monde pensait au ciel. Il pensait au ciel, Beethoven, dont les grandes houles gémissantes, pareilles aux océans tourmentés par leurs chaînes profondes, se soulevaient vers les astres. Rousseau, qui fuyait les villes pour s'élever, le cœur contracté d'amertume vers les campagnes neigeuses où fleurissent la gentiane bleue et le frais arnica. Ils pensaient au ciel, tous ceux qui, exaltés ou déçus, nous ont laissé le témoignage de leur terrestre exil. Et quand, entre deux êtres qui se sont aimés, tout est passé, brisé, quand les époux, les amants ont vu s'évanouir les suaves illusions qu'ils avaient promis de rendre éternelles, il reste encore entre eux un lien indéfinissable qu'aucune combinaison humaine ne pourrait plus renouer ni satisfaire, mais dont l'âme a bien la connaissance, lien puissant, saturé de mélancolie, d'espérance sans but et sans moyen, mais qui ne le se lasse pas, et que j'appellerai le ciel. Mai 1913.